un Samsung Galaxy A54 et des écouteurs pour 9 euros chez Proximus.
Oh waouh!
Oh waouh!
C'est parfait! Juste 9 euros, c'est fantastique!
Oh waouh!
C'est parfait! C'est une promo historique. Champagne ou bien soda, venez célébrer avec moi. Trinquons aux bonnes affaires. Laissez-moi vous offrir un petit verre.
Le Samsung Galaxy A54 et des écouteurs pour 9 euros avec votre abonnement mobile. Info sur proximus.be. Proximus. Think possible.
Crise du logement, crise financière, crise du Covid, crise avec des attentats, crise avec des déboussolements, crise et comment faire face à ces crises, crise climatique. Faut-il céder à la crise ou comment s'y prendre ? Patrick Lagadec est un spécialiste de la question. Il vient de publier une réflexion sur nos sociétés déboussolées aux éditions Percée.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Nous savons que notre monde a une addiction au plastique et que nous sommes à présent dans une crise liée au plastique.
Une attaque à l'arme à feu a visé 3 personnes.
50% de personnes qui sont en situation de sans-abrisme à Saint-Gilles.
Ici, dans le cadre de la collaboration avec le BOE Response, on peut tout à fait imaginer des formations qui vont les aider à se préparer à intervenir en cas de crise ou à aider des personnes dans leur situation, dans leur mission.
Crise sanitaire, crise géopolitique, de difficultés financières avec possibilité de perte d'emploi, d'inflation. Pour certains, leur situation qui, jusqu'à présent pouvait encore être supportable devient parfois de plus en plus difficile à vivre. C'est un peu comme la goutte d'eau qui ferait déborder le vase.
La première, le fin mot, Eddie Kakelbergs.
Bonsoir Patrick Lagadec.
Bonsoir.
Des sociétés déboussolées. Déboussolées jusqu'où sont-elles déboussolées aujourd'hui selon vous ?
Bien, c'est un peu le problème, c'est qu'on n'arrive pas à savoir quel front n'est pas déboussolé. Un jour c'est le climat. Et puis le climat, c'est trop de sécheresse, trop d'eau, trop de vent. Tout d'un coup, il n'y a plus d'eau et on se demande si on a évacué une ville de 200 000 habitants. Puis après, il y a des incendies hors contrôle et New York ne respire plus. Et tout de suite, c'est la méga crise internationale qui rebondit sur ailleurs. Enfin voilà, on vit dans cette lessiveuse permanente d'arrachement des repères, des ancrages, et ça devient la règle de base à peu près de chaque jour. Et voilà la situation dans laquelle se retrouvent aussi bien les citoyens, les opérateurs, les dirigeants, en train d'essayer de se raccrocher à quelque chose qui serait solide, mais on n'en voit pas beaucoup.
Quoi, c'est un sentiment de noyade ?
Exactement, c'est-à-dire que nous avions des environnements stabilisés avec chacun dans l'environnement un certain nombre de niches pour lesquelles il y avait des repères, bon, un peu d'incertitude à la marge, mais enfin chaque niche était à peu près indépendante et tout d'un coup on se retrouve avec des effets, des chocs qui sont beaucoup plus importants, des effets qui sont immédiatement systémiques, on l'a vu avec la pandémie de Covid. Et puis, on a beaucoup utilisé, parce que c'est le problème aujourd'hui, polycrise, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs crises en même temps. Et voilà la situation de déséquilibre. Le grand piège aujourd'hui, ce serait juste de faire le constat de ça en disant bah, on ne peut rien faire. Et on laisse les sociétés se débattre entre soit des effets Larsen de prise de parole, soit des replis. Alors je vais nier la réalité, je vais nier la vérité, je vais nier la démocratie, et puis je vais partir dans des replis bunkérisés d'avant qui auraient été... Voilà, il y a des pathologies spéciales, spécifiques, de ces temps de désarroi.
Ça veut dire que les sociétés décrochent, parce que, en fait, au bout de ça, il n'y a probablement que 2 pistes, ou une forme de résilience un peu fataliste, en disant à Maktoub, hein, quoi qu'il arrive, on n'y peut rien, tout cela va à volo. Et puis, il y a peut-être le réflexe de refus. Non, ce n'est pas comme ça, c'est le déni.
Exactement. On se retrouve dans le déni, à tourner le dos à l'escalier ou au vide qui est là, et en disant pourvu que ça n'arrive pas trop tôt, et puis on n'y peut rien. Alors je crois qu'aujourd'hui, vraiment, il faut passer ce que j'ai appelé la bataille de l'action, c'est-à-dire accepter de changer de carte mentale et accepter de travailler sur d'autres repères et d'autres repères d'action. Et je pense que les grands dirigeants aujourd'hui, c'est ceux qui prennent sur eux pour aller de l'avant en toute humilité, mais en travaillant avec les uns et les autres, à commencer par les citoyens, pour justement trouver des nouvelles routes dans cet univers. Et c'est ça qui est le plus important. Je me rappelle, j'avais été sollicité par Olivier Schmitz, là, le gouverneur de la province de Luxembourg, qui m'avait dit il avait une excellente équipe pluridisciplinaire, extrêmement engagée, qui travaillait sur le plan national de crise pour la Belgique. Il m'avait dit « Venez challenger notre équipe ». Et ça, c'est remarquable. C'est-à-dire que au lieu de dire « Apportez-nous les deux réponses que vous croyez qui seraient vendables en communication », non. Quels sont les angles morts? Quelles sont les questions que nous n'avons pas posées? Et ça, c'est le début de la sagesse et le début de la capacité à travailler dans cet univers où on perd ses repères et où il faut être au-devant des vagues et pas à l'arrière en train de se demander si ça pourrait s'aplatir très rapidement. Non, on est avec courage sur ce terrain compliqué.
Le citoyen, enfin vous le dites d'ailleurs, hein, vous parlez des victimes du cyclone Katrina en 2005 à la Nouvelle-Orléans qui criaient « nous avons été abandonnés ». Il y a ce sentiment hein, face à l'urgence climatique, face aux problèmes de dérèglement socio-économique, les crises financières et bancaires, la crise du terrorisme, on dit « vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien préconisé, vous n'avez rien mis en place, nous avons été abandonnés ».
Oui, parce que, souvent c'est vrai, comme dans l'affaire de Katrina. Mais je crois qu'il faut renverser cela. Et j'avais dit à des sapeurs-pompiers une fois qui disaient à des jeunes d'école primaire, ne t'en fais pas, s'il y a un problème, on sera là. Et je leur disais, oui, dites-leur que vous serez là, parce qu'il faut montrer sa responsabilité, mais dites-leur autre chose en plus. Il y a une petite fille anglaise, en 2004, sur le tsunami à Banda Aceh, qui a sauvé 100 personnes, parce qu'elle avait appris, elle, que si, quand la mer se retirait, ce n'était pas le moment d'aller voir, il fallait juste partir très très vite parce que c'était le signe d'un tsunami. Et cette petite fille de 10 ans a sauvé 100 personnes. Donc dites-leur, c'est peut-être toi qui auras à sauver des gens, à sortir de ta grand-mère, de ton deuxième étage, de ta maison, etc. Chacun a ses responsabilités. Il faut mettre les gens en situation de responsabilité. Et c'est un peu le travail que Gilles Mayeux, le gouverneur de Brabant-Wallon, fait lorsqu'il va voir les citoyens de manière répétée pour travailler avec eux sur voilà les défis que nous avons à traiter, voilà ce que nous attendons de vous, voilà ce qu'on peut faire ensemble. C'est cette dynamique de mise dans le bain responsable avec les uns et les autres. C'est ça la perspective qu'il faut avoir et non pas comme on a maintenant, une fois tous les 6 mois, les constats désabusés de l'ensemble des problèmes qui nous tombent dessus. Il faut vraiment être dans une optique de prise de responsabilité et d'action. C'est ça qui est le plus important.
Vous citez également la réaction d'au moins un opérateur aux commandes de la centrale nucléaire de Three Mile Island aux États-Unis, centrale nucléaire qui a connu un accident en 1979 et qui dit « J'aurais voulu envoyer au diable le panneau d'alarme, il ne nous donnait aucune information utilisable ». En fait, comment donner d'ailleurs une information utilisable souvent face à des phénomènes que nous n'anticipons pas?
Oui, alors là c'est un leitmotiv dans mon livre et dans ma pratique. C'est que l'essentiel dans ces situations, c'est la capacité à prendre du recul. Alors, je donne une anecdote. J'étais avec des hauts potentiels d'une grande société française qui fait dans l'aéronautique. Et je leur ai demandé, est-ce que vous avez des exemples? Et quelqu'un m'avait dit, oui, j'ai un exemple de crise que nous avons vécu avec mon épouse. On était dans les pays du Golfe. Elle était enceinte et on devait rejoindre ce soir-là l'hôpital parce que c'était proche du terme. Et pas de chance, nous n'avions pas suffisamment d'essence dans la voiture. Donc, j'ai conduit le plus doucement possible, le plus souplement possible. J'ai éteint la climatisation parce que c'était pleine lune. J'ai éteint les phares aussi. J'ai ouvert les vitres. Et au bout d'une heure, ma femme m'a dit « T'as jamais conduit aussi bien, mais je crois qu'on est parti dans la mauvaise direction ». Et ça, pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire, quelle prise de recul, quelles questions je dois me poser? Et au lieu de sauter de réponse en réponse, parce qu'on les a déjà sur étagère, se poser la question, mais quelles questions j'ai oubliées? Et c'est cette gymnastique mentale qu'il faut être capable d'appliquer dans ces situations pour avoir cette prise de recul. Sinon, on ne fait que du coin de table et on va de problème en problème et d'impasse en impasse. Mais c'est très, très loin de nos habitudes mentales où on a l'habitude, et c'est encore pire en matière de crise, où on répète les réponses alors qu'il faut justement investiguer les questions, à commencer par celles qu'on ne voit pas. Et c'est ça, les nouvelles grammaires de ces situations dans lesquelles, bah, pour ne pas rester déboussolé, il faut être capable d'être en action.
Oui, vous citez d'ailleurs l'ancienne ministre française de la Santé au début de la crise du Covid en 2020, qui dit, donc Agnès Buzyn, qui dit « J'ai l'impression d'avoir face à moi une armée endormie, je n'arrive pas à les secouer ». Alors les secouer, ça peut être à la fois les experts, la population, le cabinet, le ministère, le réseau de terrain. C'est terrible pour une personne en responsabilité de dire « Je n'arrive pas à voir si en face de moi j'ai un interlocuteur ».
Oui. Et je pense que ça décrit très bien, moi j'en fais l'expérience tous les jours, un univers dans lequel poser des questions pour lesquelles on n'a pas déjà les réponses est ressenti avec une telle terreur que vous n'avez personne en face. Donc on vous dit, bah non, il ne faut pas être pessimiste, non, bon, il n'y a rien encore qui le prouve. Cette notion de preuve est complètement anachronique, c'est plus du tout dans les logiques à développer aujourd'hui. Et donc, elle se retrouve, quand on lit son livre, dans un vide. Alors, elle appelle l'Europe, mais l'Europe dit, bah non, c'est pas une question européenne, on va voir. Puis, c'est pas encore prouvé qu'il se passe quelque chose. Et on va comme ça, de vide en vide. Et pour moi, c'est le signe d'une impréparation extrêmement forte et pathologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait que dans tous les lieux de responsabilité, il y a un travail en permanence sur les grandes surprises qu'on pourrait avoir, non pas pour faire une liste exhaustive, non, mais pour être capable d'affronter des univers pour lesquels on n'a pas les réponses. Et ça, c'est extrêmement étrange parce qu'à haut niveau, on a l'impression qu'on va seulement coordonner des réponses et en plus faire un peu de communication. Alors qu'aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est d'être capable de trouver les questions, de travailler sur ces questions. Et c'est en le faisant qu'on sera capable de déterminer très rapidement les erreurs qu'on peut faire, les voies qu'on n'a pas prises et qu'on aurait pu prendre. C'est cette nouvelle dynamique avec cette nouvelle grammaire qu'il faut être capable de prendre. Sinon, on se restera, comme le dit Agnès Buzyn, c'est impossible de pouvoir les joindre, il n'y a personne au bout du fil.
Oui, vous parlez aussi de culture décisionnelle piégeante. C'est vrai que oser prendre la décision, oser dire que l'on ne sait pas, oser dire que l'on doit se poser les bonnes questions, mais qu'on n'a pas forcément les réponses, ça ressemble effectivement à un piège furieux.
Ben oui, parce qu'on est tellement habitué à « j'ai toutes les réponses, je vais vous les donner », et la première question qui est posée par qui que ce soit, on voit que ça tombe par terre. Donc il faut s'entraîner à être sur un pied totalement différent, sur le mode plutôt, vous avez 15 questions, moi j'en ai 60, ça fait 75 à nous, hein, et on pourra y travailler. Et tout de suite, là, on acquiert un peu de responsabilité, même de dignité. Je me rappelle un jour un voyage en avion, et on s'était posé à Des Moines, Iowa, au lieu d'être à Chicago, et en arrivant au sol, on était un peu étonné. Il y a un steward qui est venu nous voir en disant « Écoutez, j'ai trois bonnes nouvelles. La première, c'est qu'il y a un mètre d'eau sur la piste à Chicago, vous n'atterrirez jamais à Chicago. La deuxième, c'est qu'il n'y a plus aucun avion pour partir d'ici. Et la troisième, c'est qu'il n'y a plus aucune place à l'hôtel. Maintenant, je suis prêt pour répondre à toutes vos questions. » Tout le monde a éclaté de rire, mais au moins, on voyait quelqu'un qui n'essayait pas de tricher avec la situation. Et ça, c'est extrêmement difficile dans des cultures de direction dans lesquelles on a toujours dit « il faut que je les rassure en ayant toutes les réponses ». Chacun sait très bien que vous ne les avez pas. Donc si on continue à singer le fait qu'on les a alors qu'on ne les a pas et que la première question qu'on nous pose, ça s'écroule, c'est tout à fait autre chose qu'il faut être capable de faire. Et c'est le mot clé qu'utilise le gouvernement Mayeux, l'humilité, la capacité à travailler avec les citoyens et à leur dire voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas, voilà ce que je pourrais pas savoir en bref temps, mais tout en disant aussi l'État, les responsables ont leur responsabilité. Il ne s'agit pas de la fuir en disant maintenant débrouillez-vous, je suis transparent et je ne fais rien. Non, pas du tout. Il y a chacun sa responsabilité, mais sur un terrain qui est celui d'aujourd'hui, un terrain beaucoup plus volatile sur lequel on a perdu nos ancrages, mais il va falloir les retrouver d'une autre manière, avec d'autres grammaires et d'autres logiques. C'est ça l'enjeu. Il est vraiment important de les écrire extrêmement vite, c'est-à-dire, au moins pour les milieux dirigeants, quand on fait des exercices, les faire tout à fait différemment. Il ne s'agit pas seulement d'être capable de mobiliser ce qu'on sait, mais d'être capable de réagir avec intelligence et de façon collective à des situations qui n'étaient pas prévues.
Qu'est-ce que ça veut dire être expert, posséder l'expertise aujourd'hui en face de cela? Et qu'est-ce que ça veut dire être pilote dans ces cas-là, être aux commandes?
Là, pour moi, je suis très focalisé sur la question que le pilote doit poser à l'expert, c'est-à-dire qui peut me dire quoi, dans quel délai, avec quelle fiabilité. Et la première responsabilité de l'expert, c'est de donner les limites de ses connaissances. À tout moment, pour être capable de montrer justement les pièges qui pourraient exister en termes de décision. Et ça suppose une expertise qui ait fait le travail de voir comment ils peuvent se mouvoir, non pas dans des anomalies résiduelles, à la marge, mais sur un changement de paradigme qui met en question l'ensemble des hypothèses de base. Et ça, c'est un travail à faire avec les experts pour les préparer à être des experts intelligents et pertinents en situation de crise, et non pas ben, un jour c'est qu'une grippette, le lendemain c'est fini, le troisième ben, on va dire autre chose. Non, voilà, prise de recul également pour les experts. Et pour être dirigeant, ben, c'est un chef d'orchestre sur une partition qui n'est pas écrite. Et ça, ça me semble extrêmement important. Mais ça, ça suppose d'être entraîné à être un chef d'orchestre sur des partitions non écrites. Et avec des gens qui sont également divers. Et en regardant sur chacun des acteurs, quelles sont les limites de leurs connaissances, les limites de leurs capacités, mais aussi, qu'est-ce que je peux en tirer? Là, j'ai en tête ce qu'avait fait le conseiller spécial du patron de la sécurité civile américaine au moment de l'ouragan Sandy en 2012. Il avait créé trois cellules. La première cellule, quels sont les pièges et les erreurs qu'on peut faire. La deuxième cellule, quelles sont les initiatives émergentes qui viennent du terrain, qui sont intelligentes et sur lesquelles je pourrais travailler. Et la troisième, sublime, une cellule invention. Comment on va faire dans cette situation? Et il faut s'entraîner justement sur ce type de logique décisionnelle et d'appui aux responsables. Et c'est dans cette logique-là que moi j'ai suggéré ce que j'ai appelé force de réflexion rapide, c'est-à-dire un petit groupe extrêmement divers, capable d'apporter des éclairages aux décideurs sur quatre points. Qu'est-ce que c'est que la situation qui se présente? Parce qu'on se trompe très très souvent de qualification de la situation. La deuxième, c'est quels sont les pièges? Ça, c'est extrêmement important. Troisièmement, c'est qui les acteurs? Et quatrièmement, c'est essentiel pour le dirigeant, voici quelques pistes dont la combinaison pourrait apporter des dynamiques constructives aujourd'hui. Ça, ça me semble très très important, mais il faut le préparer, autrement ce n'est pas la peine d'avoir ce type d'appui à la décision. C'est plus seulement voilà ce que vous dit l'expertise, mais voilà le spectre général des questions qu'on s'est posées et voilà les propositions qu'on vous fait en laissant le décideur, évidemment, avec sa marge de liberté et son appréciation.
Je me confronte et je nous confronte à une question d'actualité ô combien brûlante et désastreuse, évidemment, le conflit Israël-Hamas. On voit bien que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a failli, il avait promis d'être l'homme sécuritaire par excellence, il a failli sur tous les plans de la sécurité, c'est une évidence, et pourtant c'est celui qui mène la guerre. Ça veut dire que faillir ne veut pas dire forcément déchoir?
Mais dans la logique de ce que je viens de dire, je pense qu'il y a une anticipation des problèmes qu'on pourrait avoir et des déroutes qu'on pourrait avoir si on ne se pose pas certaines questions. Comment je ne me mets pas dans des situations qui deviendront totalement ingérables par la suite. Et donc quand je dis force de réflexion rapide sur des situations de crise, je dis aussi que c'est important d'avoir ce type d'anticipation en temps normal, puisque maintenant il n'y a plus de temps normal, tout est très agité. Donc qu'est-ce que je ne dois pas faire aujourd'hui pour me retrouver dans une situation dans laquelle il n'y a aucune solution ensuite? Et dans les situations dans lesquelles on est plongé, et c'est le cas qu'ils ont en ce moment, certes, il y a sans doute des obligations en termes de sécurité, mais il y a quand même une question à se poser. Et le jour d'après, comment on pilote ça? Si on dit, écoutez, on s'occupe du moment et puis le reste, bon, on verra bien comment ça se passe, ça va se passer très très mal. Donc, il y a une anticipation à faire, des pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. On a vu la même chose sur le 11 septembre. Et moi, j'étais intervenu tout de suite en disant ça ne se réglera pas seulement à coups de missile. C'est quoi la suite? c'est quoi le Moyen-Orient demain. Donc est-ce qu'on peut avoir ce recul? Le grand piège pour les unités décisionnelles, c'est d'être collé à l'événement et de ne pas avoir cette cartographie, ou plutôt cartographie au pluriel, parce qu'il y a tout ça qui est dans un milieu foisonnant aujourd'hui, et laquelle va sortir, donc d'être en accélération des questionnements qu'on peut se poser. Voilà la difficulté. Mais encore une fois, si on n'est pas préparé, c'est le blocage immédiat, parce qu'on sautera d'une réponse à une autre réponse, on essaiera de s'en sortir par quelques éléments de langage au dernier moment, triturés sur un coin de table et au maquillage, et avec ça, on n'ira pas bien loin pour des situations aussi complexes que celles que nous avons à gérer aujourd'hui.
Mais il faut des nerfs d'acier. Hein. Dans votre dernière partie, bâtir des inédits viables, vous précisez d'ailleurs emprunter l'expression à Michel Séguier. Vous citez Robert Kennedy, hein, Bob Kennedy, qui se trouve aux côtés de son frère John dans la crise des missiles de Cuba en 62. Blocus décrété, les cargos soviétiques continuent à avancer, les missiles sont à Cuba. On sait qu'on est à une fraction possible de la fin de l'humanité par guerre nucléaire. Et il se dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question à ce moment-là? Et il les liste toutes.
C'est assez exceptionnel d'avoir une équipe pareille, dans laquelle, on le voit au fil de ces 13 jours, une capacité à travailler avec ceux qui n'ont pas perdu leurs moyens, et à toujours anticiper le coup ou les coups d'après, pour ne pas faire la gaffe monumentale qui vous résout toute la crise en passant à la déroute finale. Voilà. Alors, peut-être qu'ils ont réussi comme ça, mais le point aujourd'hui, puisque c'est sur tous les fronts, quasiment au quotidien, c'est d'avoir des cultures de leadership qui aient accepté de rentrer dans les vraies questions de ce monde. Et ce que je vois très souvent dans les préparations aujourd'hui en matière de crise, c'est beaucoup plus... Laissez-moi vous résumer tout ce qu'on a appris des crises des années 80. Quoi. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose qu'il faut. Mais mon sentiment, c'est qu'on a très, très souvent une guerre de retard. On n'a pas les préparations pour être capable de naviguer dans ce monde. Et donc, à chaque fois, y a une grande déception du citoyen, une grande perte de repère des opérateurs et des décideurs qui se raccrochent comme ils peuvent, les uns à quelque bon mot de communication, les autres en disant « je vous promets tout », et puis on va retourner à des basiques complètement pathologiques. Voilà, il faut éviter de sombrer dans ces déroutes par manque de préparation. Mais aujourd'hui, la question, c'est qui fait ces préparations? Il sert vraiment le temps qu'on se mobilise pour changer de grammaire dans ce qu'on exige des décideurs quand ils prennent leur charge.
Ouais, d'un mot de conclusion, on dit souvent c'est parce que c'était impossible et qu'ils ne savaient pas qu'ils l'ont réalisé. Il faudrait au contraire dire c'est parce qu'ils savaient que c'était impossible qu'ils s'y sont attaqués.
Exactement. Exactement. Oui. Je sais que la situation est à ce moment illisible. J'ai travaillé justement pour être capable de mettre de la lecture dans l'illisible, de ne pas le faire tout seul, mais d'être suffisamment fort pour travailler sur l'humilité, pour associer d'autres personnes et de trouver ensemble des routes nouvelles très inventives. Voilà le défi dans lequel on est. Et le véritable optimisme, comme dit une personne que je cite, là, Maurice Bellet, c'est pas de dire « ça ira ». C'est de dire nous avons aujourd'hui la détermination de nous affronter aux problèmes du monde tels qu'ils sont. Et là, ça c'est le véritable optimisme. C'est pas facile, parce que ce serait beaucoup plus facile de laisser tout tomber. Mais aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de dire après nous le déluge. Il est vraiment temps qu'on prenne ça en charge.
Merci Patrick Lagadec. Société déboussolée au pluriel, ouvrir de nouvelles routes, c'est votre livre aux éditions Percé.
Merci.